Bonsoir.
Alors, je suis reconnaissant de nouveau d'être des vôtres. Je ne suis pas responsable de la chaleur qui s'abat depuis dimanche dernier. C'est purement une coïncidence si les deux dimanches où je suis là sont les plus chauds de l'année, d'accord ? Et c'est intéressant que vous ayez choisi de faire ce livre de l'Ecclésiaste. Et pour moi, ça a été une de mes séries favorites. Donc, je suis particulièrement reconnaissant de la réaborder avec vous et puis de terminer ce soir sur ce thème. Et peut-être que vous pourrez vous identifier avec ce moment. J'ai fait du théâtre quand j'étais gamin, enfin adolescent. C'est un théâtre municipal à Villefranche-sur-Saône. Et si vous avez vécu le genre de pression que cela crée, c'est particulier, ce moment où on travaille pendant des jours, souvent des nuits, parce que c'est après l'école et tout ça. Donc c'est de longues soirées, beaucoup de stress, beaucoup de difficultés, parfois des conflits entre les metteurs en scène, les acteurs. Et puis enfin, c'est la première, il y a toute la tension qui est là, qui monte. Et puis c'est la tombée de rideau et puis tout ce... Il y a une tombée de rideau qui est particulière, c'est l'ultime tombée de rideau. Quand on a fait 2-3 représentations, enfin nous bien sûr, avec le niveau qu'on avait, c'était des centaines, mais quand on avait justement cette ultime tombée de rideau, on savait qu'on allait abandonner ce projet qui nous avait tenu, et là, il y avait un petit peu de mélancolie, puis on regardait ce qui n'avait pas marché, ce qui avait bien marché, il y avait toujours ce bilan un petit peu doux-amer que l'on faisait. Et bien sûr, ce qui nous attend à tous, c'est une ultime tombée de rideau. C'est-à-dire que le jour vient où nous allons pour de vrai ne plus revivre le lendemain. Je dois être plus précis, c'est le jour vient où nous allons mourir en fait. Et ça, c'est très éclairant vis-à-vis de la vie. Il y a un film, je ne me souviens plus s'il faut le recommander ou pas, parce qu'il y a peut-être des scènes qui sont choquantes, je ne me souviens plus, donc je vous laisserai vraiment avoir le discernement là-dessus. Mais il y a un film qui met en scène deux personnages qui sont certains de mourir dans les 6 prochains mois, et ils décident de vivre les ultimes expériences qu'ils ont toujours rêvé de vivre avant de mourir, sans plus attendre. Carter Chambers, c'est un mécanicien, Edward Cole, un richissime directeur d'hôpitaux. Il se retrouve dans la même chambre d'hôpital, il ne reste que 6 mois à vivre, un an tout au plus. Carter décide d'écrire une liste où il note tout ce qu'il aimerait faire avant sa mort. Et pour lui, sa liste n'a rien de sérieux, mais Edward tombe dessus et le convainc de partir réaliser ses rêves. Et voilà, les deux compères partir, faire les choses les plus folles. Et ça montre un peu comment la plupart d'entre eux, ceux qui nous côtoient envisagent la vie. Il faut s'assurer qu'on mette une sorte de check à un certain nombre d'expériences et voilà la réussite de notre existence. Vraiment ? Est-ce que c'est cela, la vie, s'assurer de vivre des choses et puis quand on les a vécues, ah, ça y est, j'y suis arrivé. Et à la fin, ben on meurt, mais au moins on meurt en ayant réalisé un saut en parachute, ou bien en ayant réalisé un voyage en Patagonie, ou bien je ne sais pas quels pourraient être vos rêves. C'est ça la vie ? Baudelaire écrivait « Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à tout coup, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi, le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, la dernière auberge, à chaque homme accordé pour toute sa saison où tout te dira « Meurs, vieux lâche, il est trop tard. » Comment on vit quand on sait qu'on va mourir ? Comment on vit quand on sait que ça va relativiser toutes les expériences que l'on peut vivre sur cette terre ? Eh bien, avec ces bonnes nouvelles, je vous propose trois pistes que nous laisse l'Ecclésiaste dans le dernier et ultime chapitre de ce livre. Alors, c'est vraiment un livre de sagesse, mais un livre de sagesse qui date d'il y a 3000 ans. Donc, forcément, le regard est un petit peu différent de ce que nous pourrions dire, mais les applications sont, je crois, d'une pertinence. Et j'imagine vous avez apprécié le sens au milieu du chaos que nous donne cette parole de Salomon. Et donc je vais lire à partir du chapitre 11 et du verset 9, et on va lire jusqu'à la fin du chapitre 12, donc dernier chapitre de ce livre. « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps. Car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches dont tu diras « Je n'y trouve aucun agrément ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent, celles qui doivent moudre s'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses. Ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. L'on se lève au chant de l'oiseau. Toutes les chanteuses s'affaiblissent. L'on craint ce qui est élevé. L'on a des terreurs en chemin. L'amandier fleurit. La sauterelle devient pesante. La capre n'a plus d'effet car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les demeures circulent dans la rue, et les pleureurs, pardon, circulent dans la rue, avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste a tâché de trouver des paroles agréables, transcrites exactement, ce sont des paroles véridiques. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, les auteurs de recueils sont comme des clous plantés, c'est le don d'un seul pasteur. Du reste, mon fils, tire-en instruction. On ne finirait point de faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'était la parole de Dieu, avec maintenant quelques remarques que je souhaite vous proposer, qui sont des remarques de sagesse sur comment vivre en anticipant la vieillesse. Comment vivre en anticipant la vieillesse. Et ça commence vraiment comme un conseil à un jeune. Il est probable que l'Ecclésiaste Salomon ait écrit à la fin de sa vie, alors qu'il a franchement tout foiré, on le reverra dans un instant, et qu'il a violé tous les principes qu'il avait lui-même énoncés dans le livre des Proverbes. On a le Cantique des Cantiques, qui est son premier livre vraisemblablement, qui est une histoire de succès de couple réussi, enfin de début de couple réussi. Le livre des Proverbes, ça devient compliqué pour lui. Il écrit pour instruire ses enfants, devenus maintenant adultes, qui vont devenir des ministres un peu dans la cour du roi. Et il essaye de leur donner un peu de sagesse pour fonctionner au sein de son royaume. Et à la fin de sa vie, il écrit l'Ecclésiaste. Et c'est un peu triste, en fait, l'Ecclésiaste. Et donc, il revient en arrière et termine son livre en disant « jeune homme ». Donc, les jeunes hommes, c'est ceux qui ont moins de 53 ans, d'accord ? Je ne vous donne pas la raison, mais c'est une conclusion exégétique très profonde qui m'apparaît évidente. Et en tout cas, il dit « jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence ». Bon, peut-être un peu moins que 53. « Que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse ». Les amis, ce que l'Ecclésiaste propose, c'est que c'est pendant qu'on est jeune qu'on peut se réjouir pleinement et qu'il faut vraiment en profiter. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas fait partie des cours de... d'études bibliques, hein, c'est apprendre aux jeunes à se réjouir de la vie. C'est dommage. On devrait avoir ce genre de cours, non ? Parce que c'est pendant qu'on est adolescent qu'on peut vraiment profiter de la vie. jamais plus tu as l'occasion de traîner avec les autres sans te soucier de quelle heure tu rentres. Après, c'est compliqué. Jamais plus tu auras cette joie de l'insouciance, jamais plus tu auras ce lien avec des responsabilités professionnelles ou familiales, jamais plus, c'est vraiment le moment maintenant, c'est pendant que tu es jeune que tu peux profiter. Je regarde la salle, ça concerne moins que je pensais dans cette église. Mais en même temps, profiter de la vie, c'est aussi savoir qu'il y a des limites que le Créateur lui-même a mis en place. Sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. C'est trop bien de prendre une bonne bière fraîche ou un bon verre de vin, selon l'âge. En France, ce n'est pas un souci. À partir de 12 ans, de 16 ans, ce n'est pas un souci. Mais de prendre quelque chose de bon, un verre, et d'en profiter et de rendre grâce à Dieu pour ça. Mais si ça devient 2, 3, 4, 5 verres jusqu'à vomir, souviens-toi que tu es en train de détruire ton corps et que tu n'utilises pas ce que Dieu a donné pour le bien de ceux qu'il a créés à son image. C'est super de développer des amitiés, de courtiser une jeune femme, un jeune homme, honorablement, de passer du temps, de réfléchir devant Dieu à comment Dieu peut éclairer votre relation. Mais si ça devient matière à profit personnel, à manipulation de l'autre, Dieu te fera passer en jugement. C'est-à-dire qu'il faut profiter de la vie en sachant qu'il y a un regard qui est sur nous. Dieu regarde nos vies et les réformateurs avaient l'habitude d'encourager les chrétiens à vivre devant Dieu, vivre devant le visage de Dieu. Maintenant que l'on a Internet, c'est plus facile de comprendre ce que ça veut dire parce que Google sait tout de toi. Mais à l'époque, c'était plus compliqué, il fallait peut-être se le représenter en disant que Dieu est devant nous. Et je suis conscient que la lutte contre le péché est difficile et particulièrement quand on est jeune, on est vite accablé parce qu'il y a beaucoup de notions de théologie qui manquent encore sur la manière dont Dieu nous a aimés. Néanmoins, il y a à la fois cet encouragement à profiter de la vie pendant que c'est encore possible, parce que le temps vient où ce sera compliqué. Et c'est vraiment pendant la jeunesse que les engagements les plus forts peuvent être pris. On me dit que 19 personnes sur 20 se convertissent avant l'âge de 15 ans. C'est énorme, non ? Donc c'est vraiment dans la jeunesse où à la fois on profite de la vie et aussi on réfléchit à la personne de Dieu. C'est pourquoi tous les ministères auprès des jeunes, tous les ministères auprès des enfants sont tellement clés et importants. Après, mon observation, c'est que la deuxième vague de conversion, c'est quand les problèmes commencent. C'est-à-dire à partir de 35-40 ans, les gens commencent à avoir les premiers deuils, les premières grandes maladies autour d'eux, les premiers chômages, les premiers échecs, parfois les premiers divorces. Et soudainement, on se dit « Wow !» Et il y a est-ce que c'est ça la vie ? Et les gens réfléchissent et se tournent vers Dieu. Souviens-toi, Dieu va regarder tout ça. Et donc profiter de la vie, ça veut pas dire, comme on le comprend aujourd'hui, une vie hédoniste qui est libre de toute contrainte. Mais profite avant qu'il y ait des jours de malheur qui rendent les choses impossibles. Et c'est important de le souligner parce que parfois j'entends les gens dire « Quand je serai à la retraite, je serai généreux. » Quand je serai à la retraite, je ferai un travail missionnaire. Et c'est vrai que Moïse est devenu missionnaire à l'âge de 80 ans. C'est possible. Mais en fait, c'est relativement rare. Parce que, si, c'est vrai, son appel de Dieu, il avait 80 ans. Deuxième carrière remarquable quand même. Hein, parce que c'est à partir de là qu'il a sorti le peuple d'Égypte. Enfin, il faut le faire quand même. Hein. Donc voilà, si vous cherchez une deuxième, vous venez me voir, j'embauche des missionnaires retraités hein, pour... que j'ai pas besoin de payer, ça m'intéresse aussi. Mais en tout cas, ce que je veux souligner ici, c'est que avec l'Ecclésiaste, c'est que c'est vraiment pendant le temps de la jeunesse que se construisent les habitudes. On l'a vu la semaine dernière, parce que vient un temps où ça va être beaucoup plus compliqué. Et le poème qui nous est donné est un petit peu redoutable. Et selon votre âge, vous allez apprécier ou non ce que Salomon dit. Par exemple, il dit « Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie. » Et probablement que c'est ici la description de la perte du plaisir des contrastes de la vie. Quand on est jeune, une poignée de sel, c'est suffisant. Quand on est vieux, une poignée de sel, pas une pincée, une poignée, c'est insuffisant. On perd tous les contrastes de la vie. Ni soleil, ni lune, ni lumière, ni étoile ne marquent le temps avec satisfaction. Et puis dès que la pluie s'arrête, les nuages reviennent. Alors on ne sait pas trop comment comprendre cette expression. Soit que les ennuis de santé s'accumulent, soit pour dire qu'il ne faut jamais rester trop loin des toilettes. Parce que dès qu'ils se vident, ils vont encore se remplir et vous vider le nuage. J'ai besoin d'expliquer ou ça va, vous comprenez ? Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent. Et on pense qu'il y a une description des bras qui avant étaient capables de se battre, de se défendre. Et puis là, maintenant, ils sont un petit peu plus branlants. Ils ne sont pas vraiment capables de faire face à l'adversité. Les jambes se courbent. Elles étaient capables de courir, de porter. Mais là, on n'arrive même pas à prendre le Nutella en haut de l'étagère parce qu'il a été caché loin de nous, très haut, loin de toute emprise. Et on perd des centimètres. Celles qui doivent moudre s'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses. C'est absolument terrible de perdre ses dents, surtout à l'époque. Alors, j'imagine que le pire, ça doit être de perdre ses dents et d'en en garder que deux, mais une de chaque côté. C'est terrible, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus rien mâcher. Et c'est un peu la situation qu'il nous évoque ici. D'ailleurs, je trouve assez abusif les soins que nous font porter les dentistes parce qu'on est sans dents et on mourra sans dents. Je ne vois pas pourquoi il faut les brosser au milieu parce que de toute façon... Enfin bref, j'espère qu'il n'y a pas trop de dentistes dans le coin. On ne voit plus trop clairement, la vue s'assombrit et certains d'entre nous ont commencé à porter des lunettes qui vont devenir de plus en plus épaisses. Et ça va toujours être le problème. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Les deux battants, on pense que ce sont les lèvres. Et les amis, quand les lèvres se ferment et qu'il n'y a pas de dents, elles ne se ferment pas, elles se claquent l'une contre l'autre. Ce n'est pas très joli, n'est-ce pas ? La vue qui nous est laissée. Il y a un vieux pasteur qui racontait dans un message, non sans humour, que quand il allait se coucher, il était très vieux d'ailleurs lui, il enlevait ses appareils auditifs, il enlevait son dentier, et puis pendant que sa femme mettait des trucs dans les oreilles, enfin c'était pas très poétique la vieillesse qu'il évoquait. On se lève au chant de l'oiseau, toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est un peu terrible parce que quand enfin on est vieux, qu'on peut dormir, on n'arrive plus à dormir. C'est un peu terrible. On craint ce qui est élevé, on a des terreurs en chemin. Il y a un ami qui vous appelle, tu veux sortir, on va jouer une pétanque. À 18h, mais il fait tard. C'est trop dangereux, on ne sait jamais ce qui va nous arriver en chemin. L'amandier fleurit, probablement une référence à la coloration, ou plutôt la décoloration des cheveux. La sauterelle devient pesante. On ne sait pas trop si c'est une question de savoir porter des fardeaux ou si c'est lié au câpre, dont il est dit qu'il n'a pas d'effet. Mais là, ce serait un peu osé comme comparaison. Parce que la câpre, dans le Talmud, c'est vu comme un aphrodisiaque. Alors peut-être que la câpre n'a plus d'effet, ça pourrait signifier, il n'y a pas d'enfant trop dans la salle, ça pourrait signifier, il est dit que la libido féminine est à son apogée à 30 ans, la libido masculine est à son apogée à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, mais même là, il y a un moment où la câpre n'aura plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs circulent dans la rue, c'est la mort qui nous attend. C'est la mort. Le globe d'or se casse, la jarre se brise, la roue se casse sur la citerne, etc. avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est pendant qu'on est en vie qu'on doit profiter de la vie. C'est bien d'entendre ça dans une église. C'est pendant qu'on est en vie qu'on doit profiter des choses légitimes que Dieu donne. Parce que le temps vient, ça va devenir vraiment compliqué. Et puis, Salomon continue en disant ce refrain que vous avez entendu déjà au chapitre 1, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » C'est vraiment un peu sa conclusion de toute une expérience de vie. Il a mis en avant le rire et le plaisir, vous avez vu ça avec le chapitre 2, mais en fait, on est aussi triste le lendemain d'une soirée où on a beaucoup ri. C'est habitué aux substances à plaisir, comme l'alcool. Et il a constaté que c'était une vanité, parce qu'il faut encore se lever le matin. Il s'est immergé dans des grands projets. Il avait 185 000 ouvriers qui ont travaillé pendant 13 ans sur le temple et 7 ans pour sa maison. Vanité. Il avait des femmes, c'est pas des femmes, c'est un harem, c'est vraiment triste, c'est vraiment le contraire de la pensée de Dieu. 700 femmes, 300 concubines, c'est aberrant et ça a volé son cœur. Je lisais dans mon culte personnel ce matin, ça tombait bien, c'est juste dans le même chapitre de 1 Roi où il est dit que ces femmes ont saisi son cœur pour l'éloigner de Dieu. Parce que le péché, quand on lui donne un petit peu trop, il prend plus, il prend plus, il prend plus et il nous emmène vraiment loin, quoi. Le grand truc de la vie qu'il découvre finalement, et c'est la première clé qu'il donne, et que l'on a vu la semaine dernière, c'est que, ou que vous avez vu, c'est un refrain qui est répété cette fois, c'est combien le vrai bonheur, c'est les petits plaisirs de la vie. C'est manger, c'est boire, c'est les relations familiales et conjugales. Ça, c'est les petits trucs qui font que la vie, elle a de la saveur. C'est pas les grands trucs, c'est pas les grandes soirées, c'est pas des grandes réalisations. Et Salomon observe que même l'esprit religieux est pétri de fausseté. On peut être une grenouille de bénitier, excusez l'expression, hein, mais une grenouille de bénitier n'est pas heureuse, sauf dans les temps de canicule. La conclusion qu'il tire de l'existence est la suivante, vanité des vanités, c'est traduit parfois par vapeur, buée ou vent. Parfois c'est un sens très figuré, très imagé, parfois c'est lié à la notion de déception, de dérisoire, de lamentable. Tout part en fumée, ou bien tout est futile. Qu'est-ce que ça nous donne, ça ? Mais moi, je vous suggère que ce que ça nous donne, c'est pour frimer, c'est de l'hébreu. Ce que ça nous donne, c'est que, et je trouve que c'est drôlement important, nous ne sommes pas la vie que nous menons. Vous voyez ce que je veux dire ? On a trop tendance à lier notre identité aux choses que nous faisons, n'est-ce pas ? Je dois faire attention que je trouve une certaine satisfaction dans une hyperactivité. Ça, c'est un de mes défauts, un de mes nombreux défauts. Mais mon sens de la vie n'est pas dans cela. Mon sens de la vie doit être ailleurs. Pourquoi ? Parce que de toute façon, un jour, je ne serai plus hyperactif. En fait, je serai très immobile jusqu'à la résurrection. Et nous ne sommes pas ce que les gens disent. Nous ne sommes pas nos réussites. Nous ne sommes pas non plus nos échecs. Tout est vanité. Et il doit y avoir une distanciation que je fais consciemment entre ce que je fais et ce que je suis. Mon identité n'est pas liée non plus à ce que j'ai réussi ou pas dans ma vie de famille. C'est un aspect de ma vie, ce n'est pas toute ma vie. Et je trouve que c'est super salutaire et super sain, S-I-N, de le réaliser, de dire « je fais des choses, je vis des choses, mais ce ne sont que des choses que je vis. Elles sont aussi vaines, même les bonnes, même les belles, même le ministère à son côté » de vanité. Et moi, ce qui m'a vraiment bouleversé, bien sûr, au fil du temps, ce que le christianisme propose, c'est que la véritable satisfaction, puisqu'elle ne peut pas provenir de la vie qu'on mène, elle doit provenir de quelque chose qui transcende la vie même. Et ce sera toute la conclusion, et c'est la forte conclusion du livre de l'Ecclésiaste, c'est que de craindre Dieu et d'observer ses commandements, c'est une manière de dire de se convertir et d'aimer Dieu dans une manière que peut comprendre un croyant de l'Ancien Testament et qui va devenir plus claire avec le Nouveau Testament. Mais c'est que ce que Dieu propose, c'est vraiment que la satisfaction, le pain représenté par cette image, ne viendra jamais de nos réalisations. Elle viendra de ce que nos réalisations ou nos privilèges nous amènent à réaliser que ça vient de Dieu. Toutes les expériences de la vie sont liées à l'évangile. Quand je mange un bon beefsteak, je réalise que quelque chose a dû mourir pour que je sois satisfait. Christ a dû mourir pour que je sois satisfait. Toutes les expériences humaines formidables que nous pouvons avoir, ou parfois compliquées et difficiles, que ce soit le mariage, que ce soit les amitiés, que ce soit le contexte d'une église, ne sont que des représentations pâles d'un mariage beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant et qui, lui, est éternel, qui est le mariage que Dieu propose en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Parce que tout est vanité, alors je dois regarder un sens qui va au-delà de la situation actuelle. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif, nous dit Jésus. Voilà le sens de la vie qui transcende toutes les expériences que nous pouvons faire. C'est lui qui nous fait entrer dans une relation Il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. C'est lui qui satisfait profondément. C'est lui qui donne l'abondance, une abondance qu'aucune vie, même les plus pleines, même les plus riches, ne saurait donner. J'étais assez bouleversé par un journaliste qui s'est suicidé. Alors les suicides sont malheureusement tellement nombreux, mais Bourdin, ça vous dit quelque chose ? C'était un fin gourmet. Il est né du mauvais côté de l'Atlantique parce qu'il est né aux États-Unis, franchement. Quand on est gourmet, il ne faut pas naître là-bas, il faut naître en France, là où il y a de la vraie cuisine. Et en fait, excusez-moi. Mais en fait, il a beaucoup abordé et développé l'art de vivre. Un homme qui aimait la France, qui parlait le français. Et il disait la chose suivante, et c'était absolument bouleversant. Il mangeait un mauvais hamburger, et ça lui lançait dans un processus de dépression pendant des semaines. Vous imaginez cela ? Parce que ça lui faisait toucher du doigt l'échec fondamental de l'existence. Parce qu'en fait, le hamburger, il est juste là pour nous donner faim et soif d'une autre réalité. Le mariage, il est juste là pour nous donner faim et soif d'une autre réalité. L'amitié et toutes les bonnes choses de la vie sont là pour nous rappeler qu'il y a une ambition et un désir plus grand que de se satisfaire des choses de cette terre. Alors il y a une recherche de sagesse à laquelle nous invite l'Ecclésiaste. Et je vous encourage, comme le dit d'ailleurs cet auteur, de lire de bons livres pendant qu'on est capable de les lire. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes. Et 1 Roi chapitre 4 fait l'écho de cette parole, puisqu'il nous est dit que Salomon a prononcé 3000 proverbes, et ses chants sont au nombre de 1005. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liman jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de la sagesse, de sa sagesse. Bien vivre, c'est bien réaliser qu'on va vieillir et qu'on ne pourra pas faire plus tard forcément les choses que l'on peut faire aujourd'hui. C'est maintenant le temps de vivre et d'en profiter. Deuxièmement, c'est chercher cette sagesse qui fait que l'on doit relativiser les jours et rechercher une satisfaction qui est indépendante des situations trop contextuelles de la vie. La santé n'est pas garantie, le bonheur matériel n'est pas garanti, les relations ne sont pas forcément durables et il y a quelque chose qui doit transcender la situation actuelle. Et puis enfin, et ce sera le dernier point qui conclut un peu cet ensemble, de messages sur l'Ecclésiaste, écoutons la conclusion de tout le discours. Il a mis 12 chapitres pour arriver à ce point. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu, c'est là tout l'homme. Il y a quelque chose d'assez simple dans ce propos, n'est-ce pas ? Alors, craindre Dieu, ça a une connotation un petit peu négative. On a le sentiment que l'on est devant un Dieu que l'on doit craindre. Mais c'est vrai que ça a cet aspect-là. Mais c'est aussi une manière de l'Ancien Testament qui évoque le respect que l'on peut avoir vis-à-vis d'une autorité qui est pleine, et, pleine de dignité, de majesté, de sainteté, de seigneurie qui un jour nous jugera. Hébreux 4:13 nous dit qu'il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et Jésus lui-même dit ceci en Matthieu 12:36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est pas effrayant ça ? C'est absolument effrayant, je trouve. C'est absolument effrayant. Nous avons peut-être perdu cette perspective de vivre en craignant Dieu. Peut-être on a besoin de renouveler cette image que nous avons d'un Dieu qui est à la fois Père et parce qu'il est Père, est capable de nous reprendre et de nous corriger. D'ailleurs, peut-être vous avez vécu ce temps où, étant devenu un disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ayant réalisé que vous aviez besoin que Christ couvre vos péchés, peut-être que après cette réalisation, vous avez encore péché une fois. Ça vous est déjà arrivé ? peut-être même deux fois. Et l'une des plus belles preuves que le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous, c'est que vous souffrez, non ? En tout cas, c'est l'expérience que, hélas, je vis trop, et à ma grande honte, quand le Saint-Esprit vient mettre sa main pour serrer le cœur et dire « cela ne me plaît pas » et qui me ramène vers un Dieu dont les pensées sont justes, bonnes et saines et utiles. Et finalement, c'est vraiment un magnifique équilibre qui nous est donné, je trouve, dans le livre de l'Ecclésiaste. D'un côté, bien vivre à fond et profiter de toutes les bonnes choses que Dieu a créées, avec les limites de ce pourquoi il les a créées. Je trouve que c'est un équilibre formidable et extraordinaire. Sauf que, comme il a été dit dans la première partie de cette animation, la réalité, c'est que il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le fait de dire craindre Dieu, ça nous fait pour certains que nous plonger dans la réalité que on n'a pas toujours agi comme on devrait. Et qu'en fait, à la lumière de la parole de Dieu, si nos ambitions et si la réalité de nos cœurs étaient dévoilées, nous serions probablement embarrassés. Si en plus, c'était le cumul de toutes nos années, nous serions encore plus embarrassés. Pas simplement un instantané, mais l'accumulation de toutes les choses qui étaient à l'encontre de Dieu. Alors la bonne nouvelle, que l'Ecclésiaste ne sait pas encore formuler, parce qu'il manque encore toute la révélation progressive qui suit avec la venue des prophètes, avec la venue de Jésus-Christ, avec ce que les apôtres vont attester, c'est que devant ce Dieu qu'il nous faut craindre, on a vraiment la réalisation que, bien voilà, tous nous avons péché, tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et puis vous connaissez la suite peut-être, qui nous est dit que tous ces gens pécheurs qui auraient aimé pouvoir plaire à Dieu, mais qui ont réalisé qu'ils étaient incapables de le faire, eh bien tout cela, ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait ou leur fait par les moyens de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'extraordinaire à laquelle prépare Ecclésiaste. C'est à la fois de nous confronter avec notre insuffisance, de nous confronter avec nos limites, de nous confronter avec notre péché, et cela prépare la croix. Mais à la croix, il y a un accueil qui est suffisant et qui est complet. La première fois que j'ai eu une situation problématique avec ma voiture, je commençais mes études, j'avais une voiture pour me rendre sur place et je n'avais pas remarqué qu'il y avait des petits panneaux très sympathiques qui disaient du 1 au 15 stationnement autorisé à droite et du 16 au 31 stationnement autorisé. Je ne sais pas qui est-ce qui a inventé ça, c'est une machine à amende remarquable. Et je crois que je suis arrivé le 16, un petit peu en retard pour mes cours et je n'ai pas fait gaffe de quel côté tout le monde était garé à droite, je me suis garé à droite. Et quand je suis revenu de mes cours, tout le monde était garé à gauche et ma voiture avait disparu. Des gentils bonhommes en bleu l'avaient prise pour la mettre en sécurité, je suppose, et ils étaient tout prêts à la rendre, moyennant une somme conséquente pour un étudiant. J'étais reconnaissant que mon père avait les moyens de me sortir, enfin de sortir la voiture plutôt, de cet embarras, et il a payé l'amende pour moi. C'est gentil ça. C'est exactement, n'est-ce pas, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a payé l'amende pour nous sortir de la fourrière. Privés de la gloire de Dieu, nous étions destinés et voués à une mort éternelle, mais il a payé l'amende pour nous sortir de ces ténèbres. Ça, c'est la grâce, ça, c'est la croix à laquelle prépare l'Ecclésiaste. Et en fait, je dirais même, l'idéal serait que j'ai un sosie, non ? C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui ressemble à Florent Varac, mais qui s'occupe de recevoir toutes les conséquences de mes fautes. Ça serait génial. C'est-à-dire, chaque fois que je vais trop vite et que j'ai une amende, il paye. Chaque fois que je fais quelque chose d'inapproprié, il paye. Un sosie qui pourrait aller au tribunal à ma place et qui paierait gentiment, gracieusement pour moi. Ce serait formidable, non ? Je rêve, n'est-ce pas ? Mais n'est-ce pas ça le christianisme ? Dieu est devenu homme pour nous ressembler. Et l'Ecclésiaste prépare à cette réalité qu'en lui, il a absorbé toutes les fautes de notre humanité, toute la mortalité et la faiblesse de nos vies, il les a absorbés en sa personne. Lui a vécu la vie parfaite que Salomon n'a pas réussi à vivre. Lui a vécu la vie parfaite que moi, je n'arrive pas encore aujourd'hui à vivre. Et à la croix, il me représente pleinement pour que, à la croix, la colère du Père, qui voudrait me juger pour l'ensemble des choses que j'ai pu commettre, se détourne de moi à cause de son amour pour moi et tombe sur Jésus-Christ. Ce qui fait que, si je peux aujourd'hui lire ce texte, ce n'est pas « crains Dieu et obéis, sinon tu seras exclu », pas du tout. C'est « crains Dieu, réalise que tu es perdu et que Christ a répondu à ce problème de perdition et que la chose que Dieu te demande maintenant, c'est de vivre en lui, pour lui, par lui, selon une alliance éternelle dans laquelle tu es sécurisé. Il n'y a pas de crainte de perdre l'adoption que Dieu nous a accordée une fois pour toutes en Jésus-Christ. Mais de là, d'apprendre à vivre selon lui et pour lui, avec cette double réalité, à la fois de profiter de la vie et deuxièmement, de réaliser que Dieu nous mènera aussi un jour en jugement, non pas par rapport à une perte de salut, mais par rapport à la récompense qu'attend ceux et celles qui ont aimé Jésus tout au long de leur existence. J'ai été un petit peu plus long que vous avez l'habitude peut-être, mais je m'arrête ici. On prie un instant ?